oiseaux, tous les soleils, toutes les roses, toutes les choses qui t'émerveillent. Petite fille de ma rue, tu n'as jamais vu tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils, ni au trésor et les fruits d'or et les abeilles. Ne pleure pas, petite fille. Moi, je t'ai rêvé. Je t'ai trouvé dans cette rue. Je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils. Je t'apprendrai le bruit des villes, le nom des îles, petite fille de ma rue. Tu je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils, toutes les roses, toutes les choses qui t'émerveillent, petite fille de ma rue.
Bonjour, c'est André de Chabanne. Pour écouter le meilleur du jazz, du blues, les toutes dernières sorties d'albums, retrouvez-moi pour ce grand moment d'émotion dans Jazz à tous les étages.
Jazz à tous les étages, tous les samedis à 22h.
Vous avez été nombreux l'an dernier à soutenir l'Église catholique dans ses missions. À vous tous qui avez donné, merci. Afin que l'Église reste présente pour tous, sur le terrain, en particulier auprès des plus fragiles. Et pour qu'elle ait les moyens de poursuivre sa mission au service de la fraternité et de l'espérance dont nous avons tous besoin, votre don est précieux. L'Église ne vit que de dons. Pour soutenir toutes ses actions sur le terrain, donnez à donner.catholique.fr.
Présence. Parole d'auteur.
Il faut que la technique suive. Bonjour. Ces dernières décennies, on a beaucoup tremblé de froid et d'effroi grâce aux romans policiers nordiques, avec tous leurs détectives souvent alcoolisés, borderline et des fois avec des descriptions particulièrement abominables qui nous faisaient vraiment très peur. Et si cette fois on s'offrait quelque chose de plus doux et on restait pas très loin de Toulouse, pas très loin d'ici, à lire par exemple Dans les bois profonds de Colette Berthès chez Bougainvilliers Éditions. Bonjour. Bonjour Colette Berthès, donc nous vous recevons dans notre émission de Parole d'auteur pour Dans les bois profonds, votre livre qui vient de sortir chez Bougainvilliers Éditions. Pouvez-vous nous rappeler un petit peu votre parcours ? Vous êtes née dans les années 60, je crois, en terre occitane.
Bien avant. Bien avant.
Je vous rajeunis.
Oui,
alors.
Vous m'avez rajeuni de quelques 15 ans. Je suis née à la fin des années 40, dans le Quercy.
Bas-Quercy.
Dans le Bas-Quercy, entre des villages qui s'appellent Sept-Fonds, puis La Roque, l'Albinque, sur le Causse, dans ces endroits très beaux. Et puis voilà, scolarité dans un couvent, dans un petit village, puis le lycée, puis des études, puis la vie m'a amenée à l'étranger, au Moyen-Orient en particulier. Et retour en France, de nombreux métiers, j'ai changé souvent de métier, souvent de circuit, souvent de route, pour finir par entre Paris et le Proche-Orient, Toulouse, et j'ai fini par me réinstaller en Tarn-et-Garonne. Et mon dernier emploi, on va dire, celui que j'ai laissé il y a une douzaine d'années, j'étais animatrice d'atelier théâtre dans une MJC.
Très bien. Voilà. Oui, je vois que vous êtes très engagée dans la vie sociale et associative toujours. Oui. Mais vous écrivez également depuis très longtemps, je crois.
Alors, j'ai commencé à écrire quand j'avais 11 ou 12 ans. Sur des cahiers d'écoliers, comme on fait souvent, des contes que je lisais, des contes et des histoires que je lisais à mes cousins et à mes cousines. Mais ensuite, j'ai beaucoup écrit, mais pour le travail, pour les études, pour des diplômes, pour ce genre de choses, dans mes métiers. Mais très tôt, il y a au moins 30 ou 40 ans, j'ai écrit sur des articles souvent sociaux ou politiques dans des journaux alternatifs. Voilà. Et je suis revenue alors à l'écriture, je suis venue à l'écriture un peu, à l'édition par hasard, en 2000, avec La machine à tuer.
Oui, après la peine de mort.
Voilà, défendu un condamné texan innocent, noir et pauvre. Et j'ai continué, parce que je me suis aperçue que j'aimais écrire, j'aimais raconter des histoires, vraies ou inventées, et que les éditeurs, après tout, les trouvaient pas mal. Donc j'ai continué à écrire, voilà.
Et vous avez fait de la poésie également, je crois ?
Un petit peu, mais bon, pas beaucoup. J'ai eu un prix de poésie il y a très longtemps, mais j'ai jamais continué là-dedans, vraiment, sauf pour moi.
C'est plutôt dans le roman, et principalement le roman historique que vous êtes connu,
non ? Roman et récits aussi, beaucoup de récits et de reportages, puisque j'ai à la base une formation au journalisme et à la communication, à la base. Donc, tout ce qui est enquêter, interviewer des gens, rencontrer des gens, raconter ce qu'ils racontent. D'ailleurs, on le verra dans le roman, mais je suis depuis 25 ans correspondante locale pour La Dépêche du Tarn-et-Garonne. Donc, j'aime bien raconter des histoires qui sont basées sur des faits vrais, sur des endroits vrais, même si je mets ensuite beaucoup de choses qui sont inventées.
Pouvez-vous d'ailleurs nous citer quelques-uns de vos titres ?
Alors, La machine à tuer, c'est un récit, hein, puisque j'ai défendu avec beaucoup d'autres, et beaucoup de gens nous ont aidés à le défendre, un condamné à mort innocent du Texas qui a quand même été exécuté alors qu'on avait les preuves de son innocence. Ensuite, j'ai écrit 3 livres qui se passent dans le Quercy, qui sont ce qu'on appelle des romans de pays. L'un d'eux est une histoire, une grande saga familiale qui se déroule dans le Lot au XIXe siècle, Les Amants de Borderouge, et qui parle de la découverte des mines de phosphate qui ont fait la richesse du Lot. Un autre, le premier roman que j'ai écrit, a été inspiré par mon grand-père, qui avait été dans sa jeunesse compagnon du devoir de liberté.
D'accord.
Donc c'est en partie un livre sur le compagnonnage et sur les petits paysans du Quercy et sur le compagnonnage. Et le dernier qui a paru, qui s'appelle La mémoire des chemins. Mémoire des chemins. Et le dernier qui a paru il y a quelques années, mais qui est tout à fait d'actualité, c'est l'histoire du monde paysan dans notre région de 1900 à nos jours, avec toute l'évolution du monde agricole depuis 1900, donc aussi bien dans les pratiques de travail que dans les mentalités agricoles. Et c'est sur 5 générations de paysans sur la même terre. Et on voit toute l'évolution aussi de cette profession, mais aussi toute l'histoire de la France vue depuis ce point de vue là-bas, dans une petite ferme du Quercy.
Oui, toute l'évolution, puis l'évolution aussi des sentiments, des affects. Hein,
tout à fait, des affects, des mentalités, des façons de
consommer. J'en ai commencé un. récemment. Et effectivement, on voit bien comment vous vous attachez à rendre les rapports qui sont des fois assez distants, et en même temps il y a de la tendresse qui passe, mais voilà, elle n'est pas forcément dite ou pas dite même manière que maintenant.
Tout à fait, c'est ce que j'ai vécu enfant, puisque je viens d'un milieu agricole quercinois. Et ce roman-là s'appelle Une infinité de matins. Mais à côté de ça, j'ai aussi écrit un essai, qui est le premier essai d'ailleurs, sur l'histoire du camp d'internement de Sept-Fonds, 1939-1945, qui a enfermé plus de 16 000 républicains espagnols.
C'est cela, voilà. sur l'exil.
Sur l'exil et l'enfermement dans un camp, et basé sur des interviews de survivants de camps ou de témoins de l'époque. J'ai aussi écrit un roman, mais qui a 90% vrai, qui se déroule en Cisjordanie, entre Bethléem, Jérusalem, Ramallah, Hébron. Voilà, et d'autres livres encore, hein, puisque je suis intéressée par de nombreux sujets.
C'est là où votre héroïne est une avocate qui cherche sa fille.
Mon héroïne est une mère de famille, voilà, mais qui par contre, elle cherche sa voix, elle cherche pourquoi sa fille avocate moderne, laïque, s'est un jour suicidée au milieu des soldats israéliens en tuant plusieurs soldats. Donc c'est une enquête aussi à travers la société palestinienne qui fait découvrir toutes les facettes de cette société qui vont des plus religieux aux plus laïques, des plus traditionnalistes aux plus modernes, et surtout dans le monde des femmes et des jeunes avec leurs envies, leurs pensées, leur vie, voilà. C'est autour de la société palestinienne actuelle et de la situation actuelle. Mais je l'ai écrit bien longtemps avant Gaza, hein, plusieurs années avant Gaza.
Oui. Bien sûr, mais je pense qu'en effet, il est bon de le rappeler parce que ça peut nous donner un éclairage a posteriori.
Une grille de lecture.
Une grille de lecture pour comprendre, tenter de comprendre une situation qui est extrêmement complexe.
Complexe, oui.
Mais effectivement, vous avez déjà cet esprit d'enquête.
Oui,
Vous allez retrouver de manière plus
légère.
Plus légère et puis plus déterminée et plus affirmée avec votre livre Dans les bois profonds.
Mais oui, j'écris, j'ai besoin d'avoir des choses quand même solides sous mes pieds avant de pouvoir.
C'est votre côté terrien.
Voilà, laisser libre cours à mon imagination. Mais même pour ce livre-là, pour le roman Dans les bois profonds, j'ai pris beaucoup de renseignements auprès des archers.
Qui gère
justement les cibles où se passe l'histoire.
Nous en reparlerons
plus tard.
Voilà, et puis
des choses comme ça. J'ai pris beaucoup de renseignements.
Vous aviez aussi, vous étiez aussi renseigné auprès de policiers.
Tout à fait. Puis d'autres écrivains de romans policiers aussi.
Oui. Et d'ailleurs, est-ce que c'est un genre qui vous plaît particulièrement ?
Alors, je lis beaucoup de romans policiers.
D'accord.
Voilà, Henning Mankell a été une découverte pour moi, justement. Suède, c'est vraiment un grand pays. Il n'a pas écrit que des romans policiers, d'ailleurs.
Non.
Il a écrit beaucoup d'autres choses. Mais je m'intéresse aussi beaucoup à des romans policiers qui se passent dans l'Antiquité ou qui se passent dans des pays étrangers, comme le juge Ti en Chine, il y a 1500 ans, ou dans le milieu religieux, où c'est dans l'Angleterre du Moyen-Âge. C'est un père qui mène l'enquête, un moine. J'aime beaucoup découvrir à travers un roman policier, non pas la violence de notre société, parce que je la connais, et ses horreurs, je les connais, mais aussi des domaines, des pays, des cultures que je ne connais pas, de maintenant ou d'avant.
Oui, c'est ce qu'on ressent très bien dans votre livre. Vous êtes ancré dans un terroir et le roman est aussi, policier est aussi un prétexte pour aller
ailleurs.
Faire découvrir ce terroir à d'autres,
le
partager.
Tout à fait.
Moi, j'ai un peu pensé à Miss Marple par moment.
D'accord.
Vous vous rappelez de l'enquêtrice d'Agatha Christie?
Oui. Alors, Agatha Christie a été quand même une de mes premières lectures en roman policier il y a très longtemps.
Mais parce qu'il y a ce côté un petit peu. Dame d'un certain âge, tranquille, qui n'est pas du tout liée
au monde de la police.
Non, au monde de l'enquête, ou même au monde médical. Enfin, voilà. Elle mène sa petite enquête.
Oui.
De manière, comment dire, en bonne mère de famille, je dirais.
Oui, tout tranquillement, un petit pas chaque jour.
Et je me suis demandé s'il n'y avait pas un clin d'œil aussi, parce que j'ai repéré quelques petits clins d'œil aussi littéraires dans votre. Dans votre ouvrage, par exemple, au titre de Fred Vargas, Dans les bois éternels.
Oui, alors elle aussi, j'ai lu beaucoup Fred Vargas dans ses premiers livres, j'avais beaucoup aimé. Le dernier m'a beaucoup déçue, mais bon, on n'en parle pas. Mais les premiers, c'est aussi des livres que j'ai lus et relus et relus.
Oui, ça ne m'étonne pas parce qu'il y a aussi cette empathie chez Fred Vargas, au moins au début, là, avec ses
cohabitants dans cette grande maison, voilà, et qui sont tous ensemble. Moi, j'avais été séduite par les premiers Fred Vargas.
Oui, il y avait cette ambiance un peu poétique aussi. Oui. C'était échappé un peu poétique.
Tout à
qu'on
fait.
Retrouve par moments dans votre livre.
Oui, j'ai été influencée par ces gens-là et j'ai mis un peu toutes ces influences aussi dans mon écriture, je pense, ou dans ma façon de traiter plutôt l'histoire. Pas tellement dans mon écriture, dans ma façon de traiter l'histoire.
Oui, dans la façon d'aborder vos...
Les personnages,
les
sujets,
le contexte.
Oui.
Et c'était un choix qui a été effectué dès le départ, très consciemment chez vous, ou vous saviez très bien où vous alliez au niveau stylistique, par exemple, ou
alors,
vous
là,
dites je veux faire tel type de roman, ou c'est venu à l'instinct
non,
un peu.
C'est venu un petit peu à l'instinct. Je voulais faire un roman policier qui ne ressemble pas au roman policier classique.
D'accord. Déjà. Bah, c'est réussi parce que c'est tout à fait ce que j'ai ressenti. Je vous l'expliquerai après, peut-être.
Donc, je ne voulais pas un roman policier classique. Je ne voulais pas de violence, comme il y en a beaucoup dans les romans américains ou nordiques.
Oui, c'est ça.
Ça, je n'en voulais pas. Bien sûr, il y a des morts, il y a une enquête, mais ce n'est pas ça le principal pour moi.
On finit par saturer un petit peu. Hein.
Voilà. Je voulais parler d'autre chose, vous l'avez bien dit, de l'endroit où je vis, et puis d'autres sujets qui me tiennent à cœur. Qui me tiennent vraiment à cœur, les relations de voisinage dans un village, et voilà, ce qu'on peut faire quand on est à la retraite, si est-ce qu'on peut lier des amitiés, est-ce qu'on peut lier des amours, enfin, tout ce genre de choses, puisque j'y ai mis une jolie histoire d'amour.
Oui. Voilà. Oui.
Je voulais faire un roman policier qui ne soit pas, comme je dis aux gens, c'est un double faux roman policier.
Vous trahissez un petit peu.
Oui, mais les gens, ils ne comprennent pas trop, c'est après quand ils le lisent, ils me disent, ah ben oui, en effet.
En fait, c'est plus, il y a un côté un peu promenade. Nous allons le voir tout à l'heure, mais vos héroïnes se promènent beaucoup. Elles aiment bien randonner.
Tout à fait.
Et, ou en tout cas faire de grandes promenades. Ce n'est pas forcément des grandes randonnées parce qu'elles ne sont plus toutes jeunes.
Non, des grandes promenades.
Mais de grandes promenades. Et votre livre est un peu cette ambiance-là. Quoi. On se promène un peu. C'est un peu l'école buissonnière.
Oui. Oui, il y a quelquefois un peu de danger à se promener aussi comme ça dans les bois ou ailleurs.
Ah, on peut se faire peur, oui.
On peut se faire peur.
Mais on n'est pas que dans les bois, évidemment.
Non.
Et donc, votre village se passe aussi, votre roman se passe aussi à Toulouse.
Un petit peu à Toulouse, oui. Il y a une partie qui se passe à Toulouse et qui est...
évoquer un certain nombre de lieux.
Oui.
Emblématique
de Toulouse, et puis on y court à Toulouse des dangers qu'on ne court peut-être pas ailleurs aussi. J'ai voulu un peu faire un petit parallèle entre cette ville et puis nos villages tranquilles. Hein. Mais Toulouse est une ville que j'aime beaucoup. J'ai écrit un livre qui va être à sa 4e édition là maintenant, qui s'appelle « Les guides secrets de Toulouse et de ses environs ». Et Toulouse que j'aime depuis longtemps et que je connais depuis longtemps et que j'ai redécouverte avec ce livre, est vraiment pour moi... Comme je le dis souvent, ça aurait dû être la capitale de la France.
oui. Est-ce que c'est vraiment un but que d'être la capitale de la France ?
Non, je plaisante. C'est déjà celle de l'Occitanie, donc ça suffit.
C'est déjà pas mal, oui.
C'est déjà pas mal.
C'est déjà, quelque part, la capitale d'une France.
Oui.
Puisque Paris est un monde à part, peut-être.
Oui. Non, moi, j'aime beaucoup Toulouse et j'aime y venir.
Donc, nous allons avoir bientôt une petite pause musicale qui va nous rapprocher de Toulouse, puisque vous avez choisi un morceau de Francis Cabrel qui s'appelle « Un peu de sucre ».
Voilà. Les Fabuleux Troubadours, c'est aussi Toulouse.
Voilà, c'est vrai.
La belle Toulouse se réveille dans son palais d'autobus. C'est la même journée que la veille, la chaleur en plus. quelques pigeons se poursuivent dans le ciel d'Arnaud Bernard. Tu mets un morceau de sucre dans ton café noir. Tu mets un morceau de sucre dans ton café noir. C'est un immense mystère. On est d'ici 100%. Quand on part, y a rien à faire. On demande, on revient quand. C'est un courant magnétique ou c'est le fond de l'air. Va savoir, tu mets un morceau de sucre dans ton café noir. Tu mets un morceau de sucre dans ton café noir. Allez, chante, chante, ville ardente, bouge, ville noire et rouge, ville où les motivés vivent, ville où les clodes se suivent, ville fleuve, ville flamme, ville où flot et eau l'islam, ville debout, ville fière, ville qui a tout pour faire une capitale. Ici, tous les ballons sont ovales et n'importe qui dans la foule aura toujours dans sa malle un cochonnet et des boules. C'est une terre qui nous fabrique, on grandit dans son miroir. Tu mets un morceau de sucre dans ton café noir. Tu mets un morceau de sucre dans ton café noir. Qui se promène, les fées l'ont fait, troubadour, il a la tchatche soudaine, il a la tchatche tout court, c'est une urbaine musique qui vient du fond de l'histoire. Tu mets un morceau de sucre dans ton café noir, et tu mets un morceau de sucre dans ton café noir. Allez, chante, chante, ville ardente, bouge, ville noire et rouge, ville où les motivés vivent, ville où les clodes se suivent, ville fleuve, ville flamme, ville où flot et haut l'islam, ville debout, ville fière, ville qui a tout pour faire une capitale. Dans son palais d'autobus, c'est la même journée que la veille, la chaleur en plus.
Parole d'auteur.
Nous retrouvons Colette Berthès qui va nous parler de son roman policier Dans les bois profonds, publié chez Bougainvilliers Éditions. Et elle va peut-être nous évoquer maintenant l'intrigue de ce roman. Brièvement, on va essayer de ne pas tout dévoiler, mais bon, une partie de l'intrigue, en particulier une partie de votre
le début.
Schéma narratif, va se révéler dès le deuxième chapitre,
Voilà.
Donc peut-être pouvez-vous nous en dire quelques mots.
On peut au moins parler de ça. Alors, l'intrigue, elle est partie des bois qui sont derrière chez moi et dans lesquels il y a un parcours de tir à l'arc. Et je lis beaucoup de romans policiers avec des crimes horribles et d'autres moins, et je n'en ai pratiquement jamais vu où le meurtrier, à notre époque, hein, du moins à notre époque, où le meurtrier se sert d'un arc pour tuer sa victime. Or, on part de ça, un mort derrière une cible de tir à l'arc avec une flèche dans le dos. Voilà. Et la personne qui découvre ce mort, c'est en fait une dame retraitée qui est correspondante de presse pour le journal local et qui est très curieuse et qui à côté de ça est aussi militante associative et qui a beaucoup de relations avec tous les gens par son travail. Donc elle va faire un article bien sûr pour son journal, appeler le journal, prendre des photos, mais en même temps, bien que ce soit pas son rôle, puisqu'il y a une gendarmerie dans le coin, elle va quand même mener l'enquête, parce que la personnalité du mort l'intrigue terriblement. Et plus ça va avancer, plus la personnalité du mort va l'intriguer. Et puis, à côté de ça, on a une autre dame qui se promène dans les bois avec une voiture bizarre qui est arrêtée, où finalement on trouve un cadavre.
Elle se promène dans des bois qui sont les mêmes.
Les mêmes bois, hein. Les mêmes bois, les mêmes endroits, exactement. Voilà. Oui, elle arrête. Vraiment, c'est pareil. Et en fait, on trouve là aussi un mort. La police finit par trouver un mort d'une personnalité toulousaine qui a été assassinée, qui est dans le coffre de la voiture. Un monsieur très important qui avait des agences immobilières et beaucoup d'affaires. Et cette dame, on s'aperçoit tout de suite, en fait, je peux le dire.
On s'en aperçoit assez vite, tout en suite, effet, dès le deuxième chapitre.
En fait, cette dame est une romancière qui est en train d'écrire l'histoire de la première enquêtrice. Mais elle aussi va être embringuée dans une enquête, sans le vouloir, puisqu'elle a mis le doigt dans une affaire très dangereuse, et beaucoup plus dangereuse même que celle de son héroïne de papier.
Ce que vous ne nous avez pas dit, c'est qu'il y a quand même aussi son importance, c'est qu'elle est romancière, mais elle écrit un certain type de romans. Voilà. Elle n'écrit pas tout à fait n'importe quoi.
Elle écrit ce qu'on appelle des romans de gare, ou des romans à l'eau de rose, ou des romans amour et aventure, et elle les écrit sous un faux nom. Personne ne sait qu'elle écrit ce genre de choses, parce qu'elle qui est... ça lui rapporte de l'argent. Elle aime le faire, mais en même temps, elle en a quand même un petit peu honte. Elle voudrait écrire un vrai roman et le faire publier chez un vrai éditeur. Donc son but, ça va être ça tout au long du livre. Écrire un vrai roman, comment écrire un vrai roman?
Voilà.
Et comment arriver à le faire publier et où le faire publier?
Voilà, parce que d'habitude, elle est publiée depuis très longtemps. Des décennies chez la même éditrice, la brave Eurydice.
Avec un Y?
Avec un Y. Alors, il y aurait d'ailleurs à dire sur le nom de vos héroïnes.
Oui.
Baboun, Honorine, Honorine Tabarly. Baboun, c'est Marie-Béatrice. D'où vous est venu ce surnom
Baboun. Alors, très drôle. Tout simplement, j'avais une voisine qui avait une chienne qui avait un nom, mais qu'elle avait surnommé Baboun. D'accord. Et j'adorais ce surnom Baboun.
D'accord.
Donc, j'ai dit, tiens, ça, c'est même pour une personne, c'est mignon comme surnom, tout simplement. Voilà.
D'accord.
Et Marie-Henriette, c'est venu de gens que je connais dans ma famille, qui ont à peu près mon âge et qui portent ce genre de nom. Marie-Béatrice, Henriette aussi, voilà.
Honorine
aussi, voilà. C'est des vieux prénoms que j'ai connus dans ma jeunesse.
Mais qui, là aussi, nous donne des renseignements sur un contexte géographique, quelque part.
Tout à fait. Hein? Les prénoms du coin, oui,
parce que
de la campagne.
Je ne sais pas si... Moi, je viens du Nord. Enfin, du Nord, oui, au-dessus de Montauban, donc du Nord.
Oui.
Et c'est vrai que c'est pas forcément des prénoms qu'on a l'habitude de donner.
Oui. Alors que nous, c'était des vieux prénoms qu'on entendait souvent quand j'étais petite. Donc ça m'a aussi ramené un petit peu à cette époque-là.
Oui, voilà, à ce terroir identique. Ce que j'ai bien aimé, c'est l'alias de notre romancière, Honorine Tabarly, qui s'appelle Carole de la Mézière. Ça fait effectivement tout à fait... Eau de rose et romance, quoi.
Tout à fait. Là, je l'ai choisi spécialement.
Oui. C'est là où j'ai. Il y a comme ça quelques petites notes d'humour littéraire disséminées dans votre livre.
Oui. Ouais, j'ai essayé d'en mettre même dans les situations, même dans les réflexions des gens, ou dans les. J'avais envie de faire un roman léger, un petit peu léger, puisqu'il y a quand même deux mots, et même il y a des choses graves dedans, mais un peu léger par rapport à d'autres livres que j'avais écrits et par rapport à la situation pendant que je l'écrivais. Voilà.
Après, c'est vrai que votre, vous dites, effectivement, il n'y a pas beaucoup de romans qui mettent en jeu le secteur sportif de la, du tir à l'arc, alors que c'est une discipline qui revient beaucoup à la mode, en particulier la chasse à l'arc.
Oui.
Je sais qu'il y a beaucoup de je connais pas mal de personnes autour de moi qui chassent à l'arc.
Oui, c'est.
Vous êtes tout à fait dans l'air du temps.
À un moment, j'évoque d'ailleurs un moment les chasseurs à l'arc qui n'avaient rien tué, rien touché, parce que souvent ils reviennent bredouilles. Mais bon, ben, du moins chez nous.
Nous. Je pense que c'est quand même beaucoup plus dur d'attraper une bête en tirant à l'arc qu'en tirant avec les fusils contemporains. Ouais.
Mais comme ils me disent, on se promène aussi, c'est bien.
Oui, oui, c'est un peu comme le golf, je pense.
Oui, j'ai beaucoup travaillé avec les gens qui font du tir à l'arc autour de chez moi. Et oui, c'est aussi beaucoup pour se promener, pour profiter de la nature.
Voilà, ils ne rapportent pas beaucoup de lapins, ils ne rapportent pas beaucoup de champignons, mais enfin, ils se promènent. Et puis, donc, on va trouver plusieurs milieux qui, eux, sont effectivement très, très contemporains.
Oui.
Vous allez effleurer le milieu survivaliste.
Tout à fait, qui me fait très peur. Enfin, qui me fait très peur, oui, c'est un milieu...
Il y a de quoi.
Qui grandit et qui prend de l'espace en France aussi, de plus en plus. C'est né aux États-Unis, mais qui en prend. Et qui, vu la situation actuelle... se dire qu'il y aura une catastrophe et que de toute façon, seuls les plus forts et les plus méchants et les plus entraînés survivront et que le reste sera éliminé.
Ça fait froid dans le dos.
Ça fait un peu froid dans le dos, voilà. Donc j'effleure ce milieu-là, oui.
Ainsi que des milieux qui sont aussi tristement célèbres
en
de
moment,
nos jours.
On en parle en beaucoup. Milieu de la drogue et du trafic,
et
où ce ne sont pas toujours les
ramifications.
Dans le milieu politique et dans le milieu des affaires. Parce que ce n'est pas seulement les petits dealers dans les cités.
Bien entendu.
Il y a de gros trafiquants derrière qui, eux.
Sont dans la banque, travaillent dans
la
banque.
Sont des pignons sur rue. Et...
Ou dans les. Certains labos pharmaceutiques. Effectivement, ça c'est... Donc,
je voulais parler de ça aussi, voilà, sans en faire une thèse, je ne suis pas douée pour faire ce genre de thèse, ni ces recherches, mais je voulais quand même parler de choses qui m'inquiétaient un petit peu,
et
qui sont proches de nous, parce que Toulouse, ce n'est pas loin de nos villages, et voilà, et maintenant on en parle tous les jours.
Non seulement ce n'est pas loin, mais c'est même de plus en plus décentralisé.
Oui. Oui, aussi, se décentralise.
Puisque la police à Toulouse a été relativement efficace dans certains quartiers, au point que, justement, maintenant, les points de deal ne sont plus à Toulouse, mais plutôt en périphérie.
Oui, dans les banlieues, dans les villages.
C'est un peu le drame, sans compter effectivement, le milieu rural qui commence à être touché par la consommation.
Bien sûr.
Mais bon, ce n'est pas d'ailleurs ce qui tient le plus de place dans le roman.
Non, c'est le prétexte, c'est quand même si, c'est important, parce que c'est dangereux pour l'enquêtrice. C'est un milieu qui est dangereux.
Combien ? Je me suis demandé si ça avait été difficile pour vous d'entrelacer ces deux récits. A priori, pas tant que ça, puisqu'il y a un chapitre pour Honorine... un chapitre d'abord pour Baboune, puis Honorine, puis Baboune, puis Honorine, à chaque fois c'est bien indiqué. Donc personnellement, je ne me suis pas perdue. Mais vous m'avez dit que certains de vos lecteurs avaient été un peu déroutés.
Oui, parce que si on arrête de lire par exemple pendant un jour ou deux, on a un peu oublié qui a fait quoi. Pour certains.
C'est vrai que les histoires, comme vous avez cherché à faire vraiment un parallèle entre les deux histoires,
il vaut mieux ne pas laisser le livre longtemps sans le le tenir en main, c'est ce que je dis aux gens.
Oui, et peut-être c'est ce que j'ai fait, donc j'ai été assez prise en fait par ces deux histoires.
Alors les gens qui l'ont lu, qui m'ont dit on l'a lu d'un coup en deux ou trois jours, ceux-là n'ont pas eu de problème,
c'est
plutôt d'autres lecteurs qui eux n'ont pas toujours le temps de lire et qui lisent un, deux chapitres et qui laissent deux, trois jours, voilà. Et puis c'est un peu déroutant aussi parce que il y a beaucoup d'autres livres qui mettent deux histoires en parallèle, mais là elles se ressemblent, les deux histoires, se déroulent au même endroit et elles se ressemblent avec deux personnages qui se ressemblent,
Après votre usage des temps fait que c'est relativement facile de suivre les deux affaires, puisque Baboune est au passé Oui. Dans la plupart des chapitres, il y a juste un chapitre qui commence par une phrase au présent, mais on rattrape vite le passé.
Oui, oui.
Et puis Honorine, elle est dans l'action, elle est dans l'action de l'écriture.
Donc elle est au présent.
Et puis dans son,
et puis
sa
une,
propre affaire,
c'est troisième personne du singulier, et l'autre c'est je.
Oui, tout à fait.
Voilà. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas vraiment confondre.
On ne fait pas trop la confusion.
Oui.
Et il n'y a pas de narrateur omniscient.
Non. Ça, j'ai beaucoup de mal avec les narrateurs qui se prennent pour Dieu.
Oui.
Ça, alors, qui croient qu'ils sont dans la tête des gens et qu'ils peuvent raconter tout ce qui se passe dans la tête des gens. Déjà, soi-même, quelquefois, on ne sait pas ce qui se passe dans notre tête. Donc, c'est souvent ça m'agace par... voilà. Et moi, il faut que les gens disent ce qu'ils pensent ou qu'on le voit avec ce qu'ils font.
Voilà.
Pas seulement ce qu'ils pensent. Mais j'ai beaucoup de mal à... Ou alors je mets peut-être, sans doute, car les rares fois où je le fais, j'en suis pas sûre.
Oui, 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 vous n'êtes pas sûre. Et du coup, ça donne effectivement un bon rythme à votre roman, parce que chaque héroïne vit son enquête à sa façon.
Oui.
Et elles ont beau être pas très loin l'une de l'autre, c'est quand même très différent. Leur position sociale.
Elles ne se ressemblent
ou leur
pas,
statut,
oui,
leur statut c'est un
pas
peu différent.
Même.
Et nous suivons l'enquête en fonction des indices qu'elles trouvent. Donc, oui. On n'a pas tellement d'avance. On peut se faire quand même une petite idée. En particulier pour l'enquête de Baboune, j'ai su relativement...
J'ai mis des indices, j'ai semé quelques petites pistes, voilà, bien sûr.
Oui,
hein,
mais...
la voiture la blanche.
Oui.
Voilà, des petites choses comme ça, pour exprès, des petits cailloux. J'ai semé des petits cailloux.
Mais bon, voilà, on n'en sait pas plus.
Pas plus qu'elle, disons.
Pas plus qu'elle.
Voilà, pas plus qu'elle.
Alors, donc, il y a les étapes incontournables des polars. Police, poursuite et filature, cambriolage de la maison de l'héroïne, digression sur les petits plats. Donc là, on vous avez joué aussi sur les stéréotypes. Hein. On n'en manque aucun.
Aucun. L'attaque aussi, enfin voilà. Le danger.
Alors il y a une différence notable, c'est qu'effectivement ces dames sont joviales, respectées, cordiales, elles ne boivent pas, n'outrepassent pas la loi, même si l'une d'entre elles a sa morale bien à elle.
Ah oui.
Mais on n'en dira pas plus pour nos lecteurs.
Non.
Mais
voilà.
Il y a le petit twist de la fin là, qui est assez sympa.
Mais même l'autre, finalement, qui se fait avoir quelque part aussi.
Oui. Elle se fait avoir. Mais peut-être de manière plus classique.
Voilà, plus classique.
Tandis que...
La morale, oui, j'ai voulu faire un petit saut qui soit différent de la fin de nombreux romans policiers.
Voilà, j'ai cru me rappeler d'une fin d'un des romans d'Hercule Poirot, comme ça. Je crois qu'il y a... Vous avez probablement fait un petit clin d'œil aussi à notre...
J'en ai bien... Mais il y en a très très peu. C'est vraiment une...
Oui.
J'en ai trouvé un ou deux qui... Ça me plaisait bien.
Mais en fait, ce n'est pas qu'un polar. C'est une description pleine d'empathie d'une ruralité moderne et la vie d'un village contemporain et qui est proche des commodités de la grande ville, tout en conservant les solidarités, les liens sociaux forts des villages d'autrefois. Tout le monde sait, alors on s'espionne un peu, hein, mais en même temps, on s'aide aussi beaucoup, on s'entraide.
On s'entraide, oui, un petit peu
le deuxième choix musical que vous avez choisi, donc qui fait un état d'esprit proche de celui de vos héroïnes, finalement, mais probablement proche du vôtre aussi. C'est donc What a Wonderful World de Louis Armstrong.
Voilà.
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Parole d'auteur.
Et nous retrouvons Colette Berthès avec Dans les bois profonds chez Bougainvilliers Éditions. Peut-être pouvez-vous nous donner quelques petites informations sur cette maison d'édition. Alors, qui est une maison associative,
oui,
je crois.
Oui, Bougainvilliers est une maison associative que nous avons créée à une trentaine de personnes il y a 2 ou 3 ans, qui fait que qui ne publie que 4 ou 5 bouquins par an, mais qui essaye de faire de la qualité aussi bien en tant que livre que papier. Voilà, des livres qui ne s'abîment pas ou de beaux livres, et du travail soigné aussi d'auteurs qui ne publient pas ailleurs ou qui ont publié ailleurs et qui choisissent Bougainvilliers. C'est aussi une maison d'édition avec son directeur et quelques-uns de ses membres qui fait autre chose que de l'édition. C'est-à-dire qu'il travaille auprès de gens qui sont éloignés de la lecture et de l'écriture, en particulier par exemple avec des ateliers en prison ou avec des ateliers et des enquêtes dans les EHPAD.
D'accord.
Donc c'est une maison qui est dans le nord de la France, donc ils travaillent beaucoup là-bas, ou avec des enquêtes. Là récemment, cet été, il y a eu tout un mois d'enquête auprès des veuves de mineurs de la région de Danzin.
D'accord. Okay.
Et donc ça va faire sûrement après peut-être un livre ou quelque chose. Donc ce n'est pas une maison qui ne fait que de la publication. Et d'essayer de faire autre chose à côté, et de faire de la publicité pour tous les titres de cette maison, pas seulement pour son propre titre. Voilà. Quand je vais en salon du livre, j'emmène 4 ou 5 livres différents de la maison d'édition pour montrer ce que nous faisons.
Donc vous dites que c'est une maison d'édition plutôt installée dans le nord de la France, et vous êtes l'antenne locale de cette association.
Si on veut, en fait, on est de plusieurs. Déjà, on est plusieurs dans le sud. Il y a une autre dans l'Aveyron qui a fait un très beau roman aussi sur les familles recomposées. Mais disons que le siège de l'association, puisque c'est associatif, est du côté justement du Nord-Pas-de-Calais, parce que le Stéphane qui a créé la maison d'édition, qui a eu cette idée, est installé là-bas pour son travail.
D'accord.
Voilà. Mais après, on est dans toute la France, voilà, et on essaye chaque fois, chacun, de promouvoir cette maison d'édition.
Qui fait du très joli travail. J'ai trouvé que votre livre était bien présenté, ouais. Le caractère était beau, il n'y avait pas de coquilles,
c'est
reposant.
C'est du propre, c'est du travail propre.
Et c'est vrai que ça devient quelque chose de très rare. Malheureusement, ouais. Beaucoup de textes sont actuellement gâchés par la façon dont ils ont été édités.
Oui.
Ce qui n'est pas le cas donc de votre roman policier, puisque je rappelle que c'est un petit roman policier un petit peu particulier.
Oui.
Et j'aurais aimé en parler avec vous à travers un extrait. Donc, ce que je vais lire maintenant, c'est Honorine qui parle, enfin qui monologue comme dans son chapitre.
Elle parle beaucoup toute seule.
Elle parle beaucoup toute seule, et elle va nous parler un petit peu de son travail. J'aime beaucoup écrire dans les cafés. J'y suis comme dans une bulle, parfois mieux que chez moi, où, quand l'inspiration est absente, je perds mon temps à grignoter, boire un verre d'eau, ranger une bricole, écouter une bribe d'émission à la radio. En tout cas, dans la situation actuelle, je m'y sens parfaitement en sécurité et très calme. Productive. Le chapitre que j'ai bouclé ce matin, une fois relu et corrigé, me plaît bien. Les choses avancent. L'intrigue, un peu banale, se complexifie. Enfin, restons modestes. Mon roman ne révolutionnera pas le polar. Je serai déjà contente si j'arrive au bout de mon histoire, si ça tient la route et si un éditeur accepte de le publier. Cela prouvera que je peux écrire autre chose que des séries, amour et aventure. Alors, pourquoi ai-je choisi ce passage ? Parce que il me paraît très révélateur de votre livre. En fait, elle dévoile aussi un petit peu votre projet, quelque part, notre Honorine. D'abord, ce que j'ai remarqué, c'est l'autodérision qui se cache derrière ce personnage. Parce que, bon, elle est à la fois très Honorine et à la fois très excitée à l'idée d'écrire. C'est son travail, elle aime ça. Et en même temps, ben, elle a un peu peur. Et chaque livre, en fait, provoque cette peur. Je pense que restons modestes. Elle tient à se dire, elle se calme. Bon, je m'excite là. Mais bon, restons modestes. On va déjà avancer un peu tâcheron, chaque chose en son temps. Oui. Etc. Ça reflète un petit peu votre attitude, peut-être ?
Oui, quand j'écris un livre, la plupart du temps, d'abord, je fais beaucoup d'enquêtes et de lectures. Donc, ça prend du temps, ce qui me permet justement de calmer la frénésie d'écriture.
Donc, ça a été le cas pour celui-là aussi, je crois.
Alors, pour celui-là aussi, je suis allée rencontrer deux fois les archers, que je connaissais d'ailleurs par ailleurs, le club d'archers du coin. Je fréquente un peu le genre d'endroit dont je parle, Croix-Rouge, Vêtementerie, et des choses comme ça.
Oui.
Voilà, où l'une d'elles est bénévole. Il y a diverses choses que j'ai lu beaucoup de choses sur les milieux survivalistes, parce que je ne voulais pas que ce soit caricatural. Voilà, pas mal d'articles, pas de livres, mais des articles de journaux. Donc voilà, j'ai fait entre mes moments d'écriture, j'ai fait des breaks pour voyons de quoi je vais parler. Il faut quand même que je me renseigne.
Oui, c'est bon. Et vous avez aussi été voir. Donc à la fois
voisin ancien gendarme, des gendarmes, son épouse aussi pour voir est-ce que ça se tient la route ou pas ces histoires de gendarmerie. Il m'a dit oui bien sûr, et donc il a relu les passages qui parlent des gendarmes puisqu'il y a un gendarme un peu spécial là-dedans. voilà, donc oui, j'ai vu aussi
et puis également des personnes qui sont écrivains de polar depuis plus longtemps que vous.
Alors, de polar, oui, qui sont écrivains depuis très longtemps, puisque l'un d'eux qui m'a conseillé est un ancien inspecteur de police toulousain. Voilà. Et l'autre, un très gros succès national. C'est pour ça que j'ai mis que ses initiales, avec des romans policiers aussi. Et j'ai lui ai fait à lui aussi des petits clins d'œil dans mon livre, qu'il a repéré quand il a lu le livre, mais que je ne vais pas dire ici, voilà. Mais qui lui ont fait bien plaisir.
Donc, en fait, parallèlement à cette autodérision, il y a tout un subtil jeu de miroir, quand même,
oui.
qui donne le sens et la saveur de votre livre, puisque c'est un roman poupée russe.
Oui, ça, oui, tout à fait.
Baboune ressemble beaucoup à Honorine. Honorine et Baboune, ce sont d'autres noms que Colette Berthès donne à Colette Berthès.
Tout à fait, tout à fait, dans beaucoup de choses. Pour beaucoup d'aventures, en particulier pour se promener dans les bois tous les jours, bien sûr.
Mais aucune de ces facettes de vous-même ne se prend au sérieux. Par contre, alors là où ça m'a fait penser au spectacle de cirque contemporain.
D'accord.
Je vais vous expliquer.
Ah oui.
Parce que dans le cirque actuel. On montre toutes les ficelles des tours qu'on va faire, de magie.
D'accord.
En général, l'acrobate va vous montrer toutes les étapes, on voit tout. Et en même temps, la magie fonctionne.
Ouais, ouais.
Et vous, c'est un petit peu comme ça que vous avez procédé, à mon sens, avec Honorine.
Mmh. Oui, ça, j'ai voulu montrer aussi comment on écrivait voilà. un livre, comment on interviewait les gens, comment on menait une enquête. Ça, j'ai voulu le montrer de l'intérieur,
c'est
parce
ça.
Que je connais.
Et oui. ça, ce livre est un peu comme le making-of d'un livre.
Oui,
on le voit se faire devant nous, en fait.
Exactement. On le voit s'écrire petit à petit et puis se dire, est-ce que ça va? Est-ce qu'il faut que je revienne en arrière? Est-ce qu'il faut que je corrige? Est-ce qu'il faut que je change? Parce que c'est ça, écrire un livre, hein, c'est corriger et recorriger et encore corriger.
Oui, vous avez fait combien de lectures et de relectures?
Même pour celui-là, j'ai dû faire 5 ou 6 relectures.
Oui, et ça paraît effectivement normal. Parce que surtout pour un policier, non, déjà, souvent, faut vérifier que la dame rentre dans la chambre avec la robe rouge et ne
qu'elle
sort
pas
avec la
verte.
Robe
jaune, oui, bien sûr. D'ailleurs, j'ai fait un petit quelque chose en policier.
Avec
les descriptions de personnages qui ne servent absolument à rien, sauf à faire des lignes en plus et de faire des gros livres.
Oui.
Que je saute quand je lis un roman policier parce que c'est pas ça qui m'intéresse.
Mais vous jouez aussi avec cette notion-là.
Oui.
Parce que justement, elle bougonne et elle dit oui, je saute, parce que c'est pas intéressant. Mais elle-même, elle se prend un peu au piège et des fois, elle nous raconte des choses qui sont vraiment... on se dit oui, d'accord, elle va prendre un verre d'eau, pourquoi ?
Oui, c'est ça aussi, le roman.
Donc, il y a quelque chose... Donc, vous jouez avec nous.
Oui.
Vous jouez avec le lecteur et vous ne vous prenez pas au sérieux. Mais vous jouez pas de nous.
Non, parce que les cartes sont affichées.
Voilà.
Dès le début.
C'est ce que je vous dis. Voilà. Le tour de magie est là.
Ouais. On a mais après, on s'y prend quand même. On s'y prend quand même. Mais moi, je m'y suis prise en écrivant. Hein, puisque je ne savais pas quelle serait tout à fait la fin non plus en écrivant. Je ne savais pas tout à fait quelle serait la fin. C'est au fur et à mesure, en menant mes enquêtes avec mes héroïnes, que je suis arrivée à telle conclusion ou telle autre.
D'accord, jusqu'au dernier moment, vous ne saviez pas exactement où vous
alliez. Vers les derniers chapitres, je ne savais pas comment j'allais terminer et m'en sortir. Non.
Vous jouez sans filet alors?
Tout à fait, là sans filet, oui.
Et donc, c'est vrai que c'est, avec l'excuse du roman policier, c'est une vraie réflexion sur la littérature que vous nous donnez.
Oui. Tout à fait. Je me suis toujours demandé pourquoi on parlait de grande littérature, de bonne littérature, de romans populaires, alors que le roman populaire du 19e siècle est magnifique, par exemple, et pourquoi il y avait ce mépris souvent pour le roman populaire. Donc j'ai essayé aussi de faire un roman populaire quelque part qui puisse plaire à beaucoup de gens et ne pas être de la grande littérature tout en étant de bonne qualité. Voilà. Pour moi, il n'y a pas une grande littérature. Il y a des gens qui lisent.
Oui,
qui aime lire. Et quel que soit, je suis un peu comme Daniel Pénac, ne jugez pas ce que les gens lisent. Ils lisent, c'est le principal.
Oui, ils lisent et vous avez cette dimension ludique. Jouer n'est pas une activité qui ne serait pas sérieuse, en fait.
Tout à fait.
Jouer, c'est très sérieux.
Oui, ça peut l'être.
Et pour vous, j'ai l'impression que aussi écrire peut être aussi vital.
Depuis plusieurs années, c'est très important pour moi et c'est ma principale activité parce que là, je n'ai pas de livre en cours, mais j'écris d'abord pour le journal La Dépêche tous les jours. Je rencontre des gens dans les villages, justement, exactement comme Baboun, hein, et je fais des interviews. Et c'est très intéressant. La vie des gens ordinaires, c'est très intéressant. Et j'écris aussi pour d'autres magazines ou d'autres journaux, d'autres choses beaucoup plus engagées dans d'autres domaines. Et c'est aussi très important pour moi.
Oui, on le sent dans vos livres. On sent cette nécessité qu'a l'écriture pour vous.
Oui.
Et ce qu'il y a aussi de nécessaire, j'ai l'impression, c'est cette dimension de partage. Vous écrivez pour vous, parce que c'est comme un oiseau, il a besoin de chanter, vous avez peut-être besoin d'écrire, mais vous avez aussi besoin de partager ce chant.
partager.
Que ce soit
je suis très contente d'être là aujourd'hui ou d'aller en salon du livre ou de faire des signatures dans des médiathèques ou dans des librairies. C'est pour rencontrer des gens et pour parler avec des gens.
Merci beaucoup Colette Vertès pour tout ce beau partage.
Merci de m'avoir invitée.
Je rappelle le titre de votre roman, Dans les bois profonds, chez Bougainvilliers Éditions.
En librairie ou sur le site internet de Bougainvilliers.
Et cet entretien qu'on pourra facilement retrouver sur le site de Radio Présence et en podcast sur toutes les plateformes numériques. À bientôt pour une prochaine émission.
Merci, on ne sait jamais. Merci, à bientôt.
Au revoir Colette.
Présence.